Après la dissolution de l'Assemblée, le premier tour des élections législatives est fixé au 18 novembre 1962. Dans le cadre de la campagne électorale, l'ancien ministre prend la parole à Château-Chinon, où il déclare
« Moi, aujourd'hui, maire d'une des petites capitales de la circonscription de Clamecy et Château-Chinon, je suis candidat aux élections législatives, c'est sans doute pour défendre, là où c'est nécessaire, la conception que j'ai de la démocratie, mais c'est aussi pour tenter de défendre le mieux possible les intérêts légitimes d'un pays qui souffre et qui peine et qui a besoin, je vous le jure, de défenseurs. »
Au deuxième tour, le sénateur de la Nièvre retrouve son siège de député perdu en 1958.
Évidemment, je me réjouis de la fidélité de la région que je représente, qui m'avait déjà soutenu avec beaucoup de solidité au moment de mon échec, qui était un échec au fond de justesse, en 1958, et qui vient tout simplement de me restituer un siège que j'avais précédemment occupé pendant 12 ans. C'est à l'Assemblée nationale qu'avec mes amis politiques, ainsi que leurs voisins, ceux qui ont pris position contre la domination de l'UNR, contre les excès du pouvoir absolu, facile à prévoir, et malheureusement sur le plan de l'information déjà trop connu, j'ai l'intention de mener une bataille sereine, précise et autant que possible positive. Il est certain, et j'ai pu le constater avec quelques tristesses au cours d'une séance contradictoire avec M. Fouché, ministre de l'Information, avant-hier à Clamecy, que l'UNR bâtissait toute sa propagande contre moi en disant à quoi bon élire un député qui ne servira à rien. De même, les propagandistes de l'UNR n'hésitaient pas à écrire ce qui m'a paru scandaleux, que si l'on votait pour un partisan de l'opposition, moi, en l'occurrence, ma région souffrirait car les crédits se verraient diminuer, les investissements coupés à moitié, tout ceci qui est scandaleux. Car faut-il penser comme le chef de l'État et comme le parti majoritaire pour servir sa région et les intérêts légitimes des citoyens que l'on représente, semble évidemment indiquer un sectarisme inquiétant. Ce n'est pas du tout l'intention que de représenter dans l'Assemblée nationale un élément de désordre, mais un élément de ferme intransigeance en face des excès des pouvoirs absolus. Ça, c'est sûr. Sera-ce possible? Oui, j'en suis convaincu, car au-delà de l'Assemblée nationale, le peuple nous entendra.
Tandis que se poursuit à Vincennes le procès des conjurés de l'attentat du Petit Clamart, François Mitran est désigné comme rapporteur du projet complétant la loi sur la Cour de sûreté de l'État.
Le projet de loi qui nous est soumis ne figurait pas à l'ordre du jour qui a motivé la réunion de la session extraordinaire. Je prétends donc que le projet de loi n'est pas recevable et qu'on ne doit pas en discuter. Si la majorité de la commission, cette fois-ci sans doute plus conforme à la réalité, repousse cet argument, je soumettrai ensuite l'amendement de M. Costefloré. L'amendement de M. Costefloré porte sur des voies de recours. M. Costefloré désire que la Cour militaire de justice, qui siège actuellement à Vincennes, soit dotée de la possibilité d'un pourvoi en cassation. Il n'y a aucune voie de recours à l'heure actuelle à Vincennes, alors que même la Cour de sûreté de l'État, adoptée le 15 janvier dernier, malgré notre opposition, Cour de sûreté dont personnellement je condamne le principe et l'existence. Cependant, cette Cour de sûreté de l'État, elle, reconnaît les voies de recours. Au minimum, M. Costefloré désirerait que la Cour militaire de justice, qui se réunit depuis que la Cour de sûreté a été créée, puisse faire profiter aux accusés des voies de recours conformes au droit commun.
Monsieur le Président, combien de temps, à votre avis, allez-vous rester rapporteur?
Comme j'ai l'intention, en conscience, de me prononcer contre ce projet de loi, je suppose que la majorité réelle de la commission, s'étant ressaisie, repoussera mon rapport. Eh bien, à ce moment-là, j'examinerai la question.
Le lundi 27 janvier 1964, le gouvernement du général de Gaulle et le gouvernement de la République populaire de Chine décident d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. Interrogé à cette occasion, Mitran déclare
« J'ai observé une curieuse contradiction entre la représentation que l'on donne et que se donne elle-même. La Chine populaire sur le plan international, par une certaine raideur,
que l'on traduit comme une volonté d'hostilité à la détente internationale, côté agressif, sourcilleux, et le comportement des Chinois, plus conforme à leur tradition, si l'on sait qu'à travers l'histoire, la Chine n'a jamais livré de guerre agressive à ses voisins. Ils ont le sentiment, sortant d'un état semi-féodal sur le plan intérieur, et semi-colonial par rapport au reste du monde, ils ont le sentiment d'être injustement traités. Je suis convaincu que les problèmes de l'Organisation des Nations Unies, que le problème de Formose, que l'espèce de blocus économique et politique qui les enserre, provoquent chez eux le sentiment que, décidément, le monde entier, même certains de leurs partenaires du camp socialiste, veulent ignorer la vieille et glorieuse histoire de la Chine. Il y a un réflexe nationaliste, mais dans le bon sens du mot, qui est quelquefois interprété dans le mauvais sens du mot par des gens comme nous. Il y a donc, indiscutablement de leur part, une volonté à laquelle nous devons être sensibles, d'être considérés comme des hommes qui ne seraient pas forcément des Chinois, imperméables derrière leur sourire. Je crois que dès qu'on aborde les problèmes du travail, du monde moderne, les problèmes qui se posent à eux tous les jours, sur le plan industriel, sur le plan commercial, sur le plan agricole, on trouve des hommes de bonne volonté. Et c'est cet aspect de bonne volonté qui me paraît rendre bénéfique la reconnaissance du gouvernement de la Chine populaire par la France, qui intervient dans des conditions peut-être discutables, mais qui, sur le plan de l'histoire, est une affaire tout à fait raisonnable.
En prévision de la première élection du président de la République au suffrage universel, François Mitterrand, qui sera candidat unique de la gauche, donne le mardi 21 septembre 1965 une conférence de presse à l'hôtel Lutetia.
Mesdames et messieurs, comment jugera-t-on la politique que mène depuis 7 ans le régime issu de l'insurrection militaire du 13 mai et du référendum de 1958 ? Il suffit d'observer de quelle manière l'idée de nation est exaltée, comment on lui raconte son destin, ce qu'il advient des engagements internationaux. Il suffit de constater comment est exercé le pouvoir, ce que sont devenues les garanties de la loi. Il suffit de voir comment la décision d'un seul prime la délibération de plusieurs. Comment les droits de la minorité sont bafoués par la majorité, comment l'information s'abaisse au niveau de la propagande, comment sont privés de leur part légitime du revenu national ceux qui assument la part principale de l'effort pour comprendre à quelle tradition se rapporte le système qui nous régit. De l'homme qui tient lieu de tout, je parlerai avec le souci de ne point méconnaître les éclatants mérites qui lui ont valu la reconnaissance durable de la patrie, un rare prestige au-delà de nos frontières, et aussi le sentiment que ces mérites-là lui conféraient une légitimité personnelle supérieure aux lois de son propre pays. De la politique qu'il incarne, je parlerai avec rigueur, mais si je les conteste, je ne mettrai pas en cause la qualité de ses raisons. J'essaierai seulement de montrer aux Français qu'il est une autre tradition que celle dont s'inspire le général de Gaulle, et que cette tradition, plus que l'autre, est conforme à leur véritable génie, à leurs intérêts profonds, à la sécurité de leur patrie, à la pérennité de son renom.
Le comité exécutif de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, réuni le vendredi 29 avril 1966, désigne son président, François Mitterrand, leader de la gauche française, et lui confie le soin de choisir les membres d'une équipe de contre-gouvernement formée de responsables correspondant aux principaux ministres en fonction.
L'équipe formatrice, dont j'assumerai personnellement la désignation, et dont je ferai connaître la composition le jeudi 5 mai, comprendra 6 responsables des grands secteurs de la vie nationale. Ces responsables auront auprès d'eux des collaborateurs qui, en nombre restreint, disposeront chacun d'une mission précise d'information et de prévision, recouvrant de leurs compétences
des domaines particuliers de l'activité politique, économique et sociale, tels que doit les concevoir et les organiser un gouvernement de progrès. D'ici les élections législatives, d'autres noms viendront s'ajouter ou pourront se substituer à ceux qui entreront dans l'équipe initiale pour répondre soit à l'évolution même de la fédération, soit au résultat d'accords politiques entre celle-ci et d'autres groupes.
Les élections législatives de février 67 sont un duel entre les forces qui soutiennent le général de Gaulle et celles qui sont derrière François Mitterrand. À Saint-Étienne, ce dernier déclare
« Comme on dit, je crois, dans le métier yéyé, la comparaison de Gaulle entre la 4e ou la 5e, c'est un tube. Il ne sort pas de là. La 4e et la 5e République, qu'est-ce que c'était que la 4e ? Un régime qui a hérité d'une grande guerre, qui a fait du travail économique et social, mais qui n'a pas su se donner des institutions politiques. Voilà la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la 5e ? C'est un régime qui a su se donner des institutions politiques, mais qui ne l'a pas appliqué à une politique économique ni à une politique sociale. »
Élu au premier tour, le leader de la Fédération de la Gauche poursuit à la radio le combat qui portera à 116 le nombre des députés de son mouvement.
Françaises, Français, ce soir, je ne vous parlerai pas de vos droits, je parlerai de vos devoirs. Vous êtes des citoyens, c'est-à-dire que vous êtes les responsables de la France. Sans doute y a-t-il aussi l'État avec son appareil, ses pouvoirs, son président de la République, son gouvernement, son administration. Et je le sais bien, dans la vie quotidienne, l'État est beaucoup plus puissant que le citoyen. Seulement voilà, de temps à autre, le citoyen a rendez-vous avec l'État. C'est le suffrage universel. Et c'est à ce moment-là, fugace mais décisif, que le citoyen est plus fort que l'État. Alors prenez garde, si vous laissez passer ce moment de rappeler à l'État que la France c'est vous, demain, ce sera lui, le maître.
Printemps 1967. Les manifestations contre la politique nucléaire du gouvernement du général de Gaulle se succèdent. François Mitterrand se fait l'interprète de l'opinion inquiète.
Je connais bien l'argument du général de Gaulle. Il a été 100 fois répété, donc 100 fois entendu. C'est une force de dissuasion. L'adversaire ne nous agressera pas parce qu'il redoutera notre riposte. Si notre riposte peut le détruire, évidemment, il ne bougera pas. Ce raisonnement pourrait être valable dans l'hypothèse d'une fixité définitive de la capacité de progrès, entre guillemets, de la science atomique. Mais déjà, notre force de frappe est extraordinairement enrayée par le fait que ses moyens de transport ne sont pas au niveau des autres. Vous voyez quelle course infernale nous attend. Le seuil de la terreur recule toujours. La France est-elle en mesure de l'atteindre jamais ? Vous voyez que je n'ai pas employé l'argument financier. Souvent on dit ça coûte trop cher. Si cela devait assurer la sécurité de notre pays, je dirais ce n'est pas trop cher. Le problème est de se dire, non seulement c'est inutile, mais encore c'est dangereux, puisque si nous possédons une fraction de force nucléaire suffisamment dangereuse, nous attirons forcément la foudre a priori, mais nous sommes obligés de dire, puisque c'est inutile et dangereux, alors c'est cher. Puis il ne faut pas arrêter là notre raisonnement. Déjà, on nous dit de toutes parts que les expériences nucléaires ont empuanti l'atmosphère au point de provoquer de graves risques pour la santé des hommes. Nous avons refusé de signer l'accord sur la cessation des expériences nucléaires dans l'air et dans l'eau, l'accord de Moscou, alors que nous devrions en réalité demander son extension. Nous sommes absents de la conférence de Genève qui examine les conditions du désarmement. Nous sommes engagés dans un engrenage impossible.
Après les événements qui secouèrent la France en mai 1968, la campagne électorale, bien que passionnée, se poursuit dans le calme. Et François Mitterrand déclare
« Le problème posé par ces manifestants, c'est celui du droit au bonheur, c'est celui du droit à la vie. Répondre à ces questions, ce n'est pas remettre en question non plus l'unité nationale. Cela ne sert à rien d'évoquer la guerre civile. Les grèves, d'une ampleur sans exemple, ont immobilisé la France pendant 4 semaines. Le problème posé par ces millions de travailleurs, C'est le problème de l'organisation du travail. C'est le problème de leur sécurité. Et au-dessus de tout cela, c'est un problème de dignité. Cela n'a rien à voir avec la guerre civile. On aurait pu penser que le gouvernement aurait essayé de comprendre la signification de cet immense mouvement, fait d'inquiétude, mais aussi d'espérance. Il n'y a vu que moyen tactique, qu'une astuce pour se tirer d'un mauvais pas où l'avait placé sa mauvaise politique. Il est passé d'un référendum illégal à des élections législatives bâclées. Il a substitué la crainte et la menace au débat des idées, à la discussion d'un programme, à la proposition d'une politique nouvelle. Du commencement jusqu'à la fin, tout s'est passé comme si, afin d'échapper à l'impopularité grandissante, ou bien de prendre de vitesse une crise inévitable, le général de Gaulle et M. Pompidou avaient fabriqué ce piège inacceptable, le chantage à la guerre civile.
À l'occasion des 12e assises nationales de la Convention des institutions républicaines, réunies à Saint-Gratien, Mitran dessine le profil du nouveau parti socialiste.
Les assises de la Convention des institutions républicaines avaient essentiellement pour objet de préciser, à la veille des premières assises départementales du nouveau parti socialiste, ce que nous entendions par l'idéologie, la théorie politique et aussi la pratique politique nécessaire pour la gauche socialiste, qui a le plus grand besoin de la création de ce nouveau parti socialiste. Mais il est évident que nous avons été également attirés par l'actualité. Nous n'avions pas organisé ces assises dans le dessein de discuter du référendum, mais puisque le référendum est pour le 27 avril, nous avons dit pourquoi nous voterions non. Et nous avons évoqué 5 raisons essentielles. La première est que nous sommes hostiles à la politique générale. Nous pensons qu'elle commet beaucoup d'erreurs sur le plan économique, social, monétaire, financier, et même sur certains aspects de la politique extérieure, et en tout cas sur le plan également de la Constitution. Nous pensons que le référendum est illégal, inconstitutionnel. Nous pensons qu'il réalise une fausse régionalisation. Les Français qui croient qu'il va y avoir demain une décentralisation, le réveil des vieilles provinces se trompent tout à fait. Nous pensons qu'il y a risque pour l'unité nationale, pour l'autonomie qui est une base de la démocratie, de nos collectivités locales, les communes et les départements. Enfin, je dis cela après beaucoup d'autres. Nous pensons qu'il n'est pas moralement acceptable qu'il puisse y avoir une seule réponse pour des questions très différentes.
La campagne électorale pour le référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation et le nouveau statut du Sénat ne suscite qu'un intérêt modéré dans l'opinion et dans la presse. Pourtant, le succès du non marquera le départ du général de Gaulle.
Comment ne trouverais-je pas, dans le résultat de ce 27 avril 1969, la justification d'un combat qui, pour certains, n'a pas cessé depuis 11 ans, envers et contre tout. Mais je pense surtout que la victoire du non crée de nouvelles responsabilités. Vous admettrez, vous comprendrez que je pense aussi, par préférence, en cet instant si grave, aux responsabilités de la gauche, puisque c'est elle qui a apporté le gros des suffrages en faveur du non. Eh bien, pour que la gauche reste fidèle à elle-même, il me semble qu'elle ne doit pas céder à l'esprit de revanche contre ceux qui l'ont tant, si souvent, si injustement attaqué. Non, surtout qu'elle doit s'unir. Il faut l'union des forces populaires. En fin de compte, l'objectif que nous recherchons, c'est la réconciliation des Français.
1er novembre 1970. À l'occasion des journées d'études de la Convention des institutions républicaines qu'il préside à Château-Chinon, François Mitran reprend son bâton de pèlerin de la gauche unie et déclare...
On appelle solennellement, à l'heure qu'il est, à tous les socialistes qui relèveront l'espérance. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut laisser sur le bord de la route les sceptiques et les fatigués. Il faut repartir à l'assaut de la majorité, il faut les combattre sur tous les plans, leur politique extérieure, leur politique intérieure, leur politique économique, leur politique sociale, leur politique du logement, leur politique de l'école. Il faut être présent dans la bataille et à tous les créneaux. Et tous les jours, et à chaque instant. Il faut retrouver l'envie de se battre. Il faut leur faire rentrer dans la gorge les paroles imprudentes qu'ils ont prononcées lorsqu'ils ont cru pouvoir nous effacer de la carte. Il faut durcir la lutte.
le 1er juillet 1971, au cours de la première conférence de presse, depuis qu'il a accédé à la direction du Parti socialiste, François Mitran présente les objectifs du nouveau parti.
Nous discutons avec le Parti communiste, eh bien c'est pour cette semaine. Sur des actions ponctuelles, oui, elles seront nombreuses. Sur un programme, non, pas encore, nous voulons en délibérer. C'est clair. Nous voulons rencontrer le Parti radical. Parce que nous le considérons comme un parti socialiste? Non. Mais parce que nous savons qu'il accepte la perspective socialiste, de préférence à la société conservatrice représentée par la majorité actuelle. Et que nous avons un large terrain d'entente capital pour nous, socialistes et démocrates, tout simplement une certaine conception des droits de l'homme dans une société politique. Eh bien, puisque nous sommes d'accord pour discuter avec le Parti radical, nous nous rencontrons cette semaine. Nous voudrions discuter avec le PSU. Il semble n'y pas porter beaucoup d'intérêt en raison des difficultés qu'il a lui-même à surmonter ses contradictions. Très bien. Eh bien, nous attendrons. Non pas parce que nous sommes patients, nous le sommes peu, mais parce que l'attente des travailleurs mérite bien que nous surmontions ces modestes difficultés.
Avril 1972. Référendum du président Pompidou sur l'Europe. Le premier secrétaire du Parti socialiste prend position pour l'abstention.
Que fait-on de la démocratie quand on cherche à faire oublier les difficultés de la vie quotidienne? Logement, salaire, prix, chômage, les scandales dans lesquels patauge la majorité, tristement, les privilèges fiscaux dont profitent les plus riches au détriment des plus pauvres, l'incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes en suspens. Pour appeler l'Europe au secours, l'Europe, par un référendum alibi, un référendum passe-partout. Voyez-vous, nous, socialistes, nous sommes pour l'Europe depuis le premier jour. Nous avons voté le marché commun. Nous avons voté tous les traités européens, contrairement à ceux qui gouvernent aujourd'hui. En vérité, le référendum ne sert à rien. S'agit-il du marché commun? Il existe depuis 15 ans. S'agit-il de l'adhésion de la Grande-Bretagne? Mais c'est déjà fait, le traité de Bruxelles a été signé le 22 janvier 1972. Alors, s'abstenir, mettre un bulletin blanc, ce n'est pas nuire à l'Europe, ce qui pour nous est essentiel, mais c'est refuser la mascarade.
En juillet 1972, François Mitran élabore avec les communistes un programme commun de gouvernement de la gauche. Au cours de la campagne électorale pour les législatives de mars 1973, il rend crédible la formation d'une majorité parlementaire capable de gouverner et de préparer les voies de la société socialiste.
Le président de la République l'a bien senti, qui est venu à la rescousse l'autre jeudi dans sa conférence de presse pour expliquer que la gauche allait vous prendre, mesdames et messieurs, votre petite maison, votre petit jardin et même votre champ. Baliverne éculée depuis déjà la fin du 19e siècle. On aurait pu croire que cet homme cultivé aurait évité ce genre de propos. Mais j'ai le sentiment que depuis sa sortie de normale supérieure, il a cessé de lire les bons auteurs. Il s'inquiète pour votre petite maison, il s'inquiète pour votre petit jardin, il s'inquiète pour votre petit champ, non, il s'inquiète pour ses petits sièges.
Dès la publication des résultats du premier tour, l'hypothèse d'une majorité de gauche paraît possible. Conscient de l'enjeu, Mitran déclare à la veille du deuxième tour:
300 députés sur 400 de la majorité se retrouvent aujourd'hui avec une perte de 20% de ses suffrages. C'est pourtant l'axe de la majorité, le corps de bataille. C'est elle qui confisque les principales responsabilités, avec naturellement à quelques postes avoisinants. C'est, comment disait-on, c'est féaux,
46% pour la gauche unie. Il manque 4%, me semble-t-il. Tout permet d'espérer que dimanche prochain, la barre sera franchie. Le choix, il est simple. Ou bien la droite et le maintien d'une politique et d'hommes que le pays a refusé. Ou bien la gauche, avec ses défauts, elle en a, mais aussi ses qualités, qui sont d'abord de représenter les masses au travail, les travailleurs, les producteurs, et aussi ceux qui en ont été écartés, les oubliés de la croissance, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui sont exploités, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont oubliés, oui, l'immense majorité des Français.
Avril 1974. Le président Pompidou est mort, la succession à l'Élysée est ouverte. François Mitterrand est le candidat unique et incontesté de la gauche.
Pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris. Perpétuer et continuer la politique d'aujourd'hui, c'est prendre l'immense risque d'une division interne qui épousera les couches sociales, les classes sociales, et qui fera dominer ses luttes sur la nécessaire unité nationale. Qui donc peut bâtir la politique moderne, sinon celui qui dispose de la confiance des travailleurs?
Pourtant, au jour du 19 mai, les premiers résultats ne laissent plus espérer la présidence de la République.
À l'heure présente, le résultat de l'élection présidentielle semble acquis. Le suffrage universel est notre loi. Sa décision s'impose à tous. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission en préservant ce qui fait l'essentiel de notre communauté nationale. Je remercie les 12 millions et 600 à 700 000 Françaises et Français qui, en se comptant sur mon nom, ont réalisé le plus grand rassemblement de notre histoire contemporaine sur les idéaux de la gauche. Je mesure leur tristesse à la dimension de leur espoir. Qu'ils gardent foi dans la cause qu'ils servent. Grâce à eux, en ce jour du 19 mai 1974, quelque chose vient de commencer qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Une formidable coalition du pouvoir en place et des forces de l'argent a contenu d'extrême justesse le mouvement populaire. Amis de France et d'outre-mer, je vous demande de rester unis et de partager ma résolution. Notre combat continue parce que vous représentez le monde de la jeunesse et celui du travail. Votre victoire est inéluctable.
Après la poussée socialiste des élections législatives partielles de l'automne 1974, François Mitterrand tentera la réunification du courant socialiste.